Gnota FM, le journal Ege Tchala.
Bonjour à tous, madame, messieurs, bienvenue à cette deuxième édition du journal sur Gnota FM. À la une, la présence d'Uhuru Kenyatta à la haie. Les présidents kenyans ont comparu le mercredi pour tenter avec ses avocats de défier la Cour pénale internationale qui lui reproche les crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2007. Et à Kolwezi, précisément au quartier Kasulo, se poursuit en toute inquiétude l'exploitation artisanale des minerais. Cette pratique, plusieurs fois prohibée, expose les habitants des sites parties de la commune des Dilala aux éboulements et à l'effondrement des maisons. Voilà tout pour les titres et bienvenue une fois de plus à cette session d'information sur Gnota FM, réalisée pour vous par Prince Amonga. Au Nord Kivu, les chauffeurs et transporteurs sur la route Beni-Kassindi sont en grève depuis mardi 7 octobre. Ils protestent contre les mauvais états de cette route reliant les villes commerciales de Beni et Butembo au poste frontalier de Kassindi. L'association des pétroliers importateurs de Beni et Lubero appelle les autorités à décompter cette situation. Le président kenyan Uhuru Kenyatta est arrivé mercredi à la haie, siège de la Cour pénale internationale. Comme cela a été initialement prévu, il a même assisté à une audience qui devra déterminer les griefs qui pèsent sur lui à la CPI et rappelant qu'il lui est reproché des crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales. C'était en 2007 alors qu'il n'était pas encore président de la République. Alors président en exercice à la Cour pénale internationale, quelles conséquences cela peut entraîner sur les plans du droit international? Selon un internationaliste, le professeur José Sabwa, Uhuru Kenyatta s'assume et que tous les présidents en exercice ne sont pas en droit d'aller s'y livrer à la CPI pendant qu'ils sont encore en exercice. Je vous propose de suivre ces propos recueillis pour vous par Guillaume Norbert Kazadi.
Aujourd'hui, si le président kenyan a pris le courage d'aller se présenter devant la CPI, la première conséquence que nous pouvons indiquer, c'est que ici il y a une certaine harmonie dans le sens de marcher avec les lois internationales, parce que lorsque les lois sont élaborées, elles doivent être respectées, et le respect des lois, c'est une manière aussi de contribuer à la paix et à la sécurité internationale. Pour des présidents en exercice, il y a encore immunité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pendant le temps qu'ils sont encore au pouvoir, bien qu'ils soient établis certains faits, mais on n'a pas le droit de mettre la main sur eux pour les traîner au niveau de la Cour pénale internationale. Mais si un président en exercice puisse de lui-même prendre l'initiative d'y aller, eh bien, de ce point de vue-là, et du point de vue de droit, il faut comprendre que ce président accepte d'assumer toutes les conséquences de ce comportement-là. Donc, parler en termes de jurisprudence, je pense que pour l'instant, nous ne pouvons pas aller de cette manière-là. Cela dépend, évidemment, il y a un principe général et un principe particulier, et ce principe particulier en appelle à s'assumer à tout celui qui voudrait évidemment de son chef aller se présenter.
Tout locataire qui est dans l'irrégularité ou toute personne qui occupe son droit à une propriété peut être déguerpie. Cependant, ce droit des déguerpies doit se faire en suivant certaines conditions légales, partant des multiples cas des violations en cette matière. Éclaircissement dans ce reportage de Lumière Moussaou.
Il arrive de plus en plus que les effets des personnes soient expulsés et que l'on fasse partir avec la police des locataires ou les occupants d'une maison. Devant ces cas de déguerpissement, violation de la loi, l'on a l'impression que les conditions du déguerpissement sont négligées et ignorées. Il serait utile, selon les experts interrogés, de savoir que tout déguerpissement doit être judiciaire, c'est-à-dire ce n'est pas une décision du tribunal à que le déguerpissement est prononcé, ou mieux, par un jugement qui ordonne à une personne de déguerpir. Encore faudra-t-il à que le jugement rendu ne soit pas attaquable ou que l'on ait épuisé les voies de recours. Ainsi, on peut alors exécuter en recourant à la force publique. Après le prononcé du jugement de déguerpissement et l'épuisement des voies des cours, il est en principe prévu que celui qui gagne le procès paye les frais proportionnels pour faire exécuter le jugement en déguerpissement. En outre, il est même admis que l'on donne un commandement de 24 ou 48 heures par écrit pour permettre à la personne de s'amender ou de quitter de bonne foi sans contrainte. Ce n'est qu'après que l'on peut déguerpir. Toute autre forme de déguerpissement serait faite en violation de la loi.
Et autre chose, les gouvernements de la RDC s'impliquent dans la lutte contre les chômages et prônent la sous-traitance locale dans les entreprises. Mais cette sous-traitance a du mal à s'appliquer sur les terrains pour plusieurs raisons. D'un côté, les investisseurs étrangers déplorent la qualité de la main-d'œuvre locale et de l'autre, les manques des politiques d'encadrement. L'exploitation minière artisanale se poursuit au quartier Kassoulo de la ville de Kolwezi, une pratique qui expose les habitants de la commune des Dilala aux éboulements, surtout pendant la saison pluvieuse qui arrive à Janine Boutchou.
On se croirait dans une carrière. Nous sommes au quartier Kassoulo de la ville minière des Kolwezi. Ici, les habitants du coin sont à la recherche du cobalt et du cuivre. Et pour y arriver, des galeries sont creusées dans presque toutes les parcelles.
Selon Mungu anangala mateso abantu bena teswa mateso ba creuser ba teswa mateso mateso bintu ala bapatia me benya bapataki.
C'est le bon Dieu qui a vu la misère de la population. C'est en creusant une fosse sceptique qu'on a su qu'il y avait des minéraux. C'est Dieu.
Est-ce qu'il produit quoi quelque côté? Il faut monter du côté du Lisa Lenin, problème ya Mungu.
On dirait qu'on n'a pas peur des éboulements dans ces coins devenus un véritable trésor.
Kuko moyen pour protéger njimu.
Il y a moyen de protéger l'environnement. Nous creusons des trous et on met des bâches à une hauteur de manière à ce que, quand il pleut, l'eau coule directement dans les trous.
Si rien n'est fait, un glissement des terres risque d'emporter ces quartiers, surtout avec l'arrivée de la pluie.
Et faisant suite du séjour en Belgique du ministre provincial de l'Environnement d'Axé Sompoué, une délégation de la province du Brabant Wallon est à Lubumbashi. Objectif, échanger entre experts sur la gestion des déchets et sur la promotion du tourisme, car la province belge Brabant Wallon est avancée dans ce domaine. Dès nos jours, les taux de réussite en deuxième session à l'enseignement supérieur et universitaire va largement au-dessus de celui de la première session. D'aucuns se demandent pourquoi ce phénomène. Eh bien, les raisons sont multiples. Soit les étudiants fournissent plus d'efforts, soit encore c'est le phénomène circuit. Titiane Bouy.
Plusieurs institutions de l'enseignement supérieur venaient d'organiser leur deuxième session. Occasion pour les étudiants à journée en première session de se rattraper. Le constat fait est que plusieurs étudiants réussissent en deuxième session plus qu'en première. De quoi susciter plusieurs interrogations. Pour une promotion de 500 étudiants, 10 seulement peuvent réussir en première session et plus de 400 lors de la deuxième session. Pourquoi cet écart?
Généralement, lorsque nous recevons les étudiants en deuxième session, ça signifie ceci qu'ils ont éliminé un grand nombre de cours à la première session. Ce qui fait qu'à la deuxième session, l'effort devient moindre par rapport à ce que l'on a déployé à la première session.
En seconde session, apprend-on, les professeurs seraient plus larges dans la cotation et recevraient des recommandations de tous bords.
Le phénomène circuit. Bon, en fait, c'est un terme que les étudiants utilisent pour dire, en fait, tous les moyens que les étudiants utilisent pour réussir. Et ces moyens-là tournent autour, en grande partie, de ce qu'on appelle la corruption. Ces moyens-là sont aussi ce qu'on appelle les recommandations.
Quoi qu'on dise, la deuxième session amène avec elle des efforts supplémentaires des étudiants, mais aussi des antivaleurs appelées circuits pour désigner achat des points, pour ne pas dire corruption et trafic d'influence.
Et puis la césarienne est devenue monnaie courante dans la ville de Lubumbashi. Selon les professionnels de santé, cela s'explique de différentes manières, telles que la formation physique d'une mère ou alors c'est la cupidité du personnel soignant. Mamie Hélène Kalilo.
Selon les études récentes en gynécologie, il s'avère que la césarienne est beaucoup pratiquée à Lubumbashi. Les raisons sont multiples. D'une part, l'état clinique de l'accouché, le lucre, et de l'autre, une culture que les Louchoises importent de l'Afrique australe.
Notamment la forme du bassin, ça peut être un bassin qui est rétréci, ça veut dire qu'il n'a pas assez de place pour laisser passer un fœtus. Là, on peut avoir par exemple la macrosomie, ça veut dire le fœtus est très gros. Au-delà de 4000 grammes, par exemple.
Certaines femmes, par contre, préfèrent l'accouchement par voie haute parce qu'elles font foi dans les suspicions relatives au maintien de leur féminité.
Il y a des médecins qui préfèrent ne pas prendre de risques parfois ou parce qu'ils se disent que s'il faut surveiller une femme qui est en train d'accoucher, il a besoin de 8 heures du temps, 10 heures du temps au chevet de cette malade-là. Ça peut lui prendre beaucoup de temps, il a autre chose à faire. Il préférera peut-être faire une césarienne qui prend 45 minutes. Comme ça, ils peuvent vaquer à d'autres occupations.
Néanmoins, beaucoup de primiparagées sont souvent candidates à la césarienne parce qu'elles sont porteuses d'une grossesse à risque.
Le bassin n'a pas encore fini sa maturation et du moment qu'elle est là conçue, il y a un risque certain pour cette femme-là si elle a accouché par voie basse, notamment ce qu'on appelle les fistules vésico-vaginales. On préférerait faire une césarienne chez cette adolescente-là.
En somme, la césarienne est un risque de foie incontournable par laquelle la femme donne vie.
Et en sport, les léopards de la République démocratique du Congo reçoivent le samedi qui vient les éléphants de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Algérie 2015. Les Congolais ont commencé les séances d'entraînement le mardi au stade Tata Raphaël, Suez.
C'est ce mardi 7 octobre que les léopards de la République démocratique du Congo ont démarré la préparation du match sur la troisième journée contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une journée très chargée qui a pourtant commencé timidement avec un petit déjeuner facultatif dans le quartier général des léopards de la République démocratique du Congo qui a été suivi des très longues heures de repos avant évidemment la séance d'entraînement prévue l'après-midi au stade Tata Raphaël, une séance dirigée par Florent Ibengue, l'entraîneur principal qui a sous sa coupe 24 joueurs, il pourrait désormais être 25. Neskens Kebano, qui pour l'instant n'est pas encore qualifié pour prendre part au match contre la Côte d'Ivoire, pourrait l'être après la décision attendue de la FIFA ce mardi dans la soirée. En attendant, les léopards de la République démocratique du Congo se préparent d'arrache-pied avec un seul objectif, remporter déjà le match de ce samedi contre la Côte d'Ivoire. Depuis le stade des Martyrs, Patrick Aïssa pour Digital Congo Télévision.
Et avant de nous quitter, d'abord cette nouvelle en international, en Sierra Leone, l'un des pays touchés par l'épidémie d'Ebola, les équipes chargées d'inhumer les victimes d'Ebola ont arrêté de travailler dans deux districts, dont celui de la capitale Freetown. Elles protestent contre les retards de leur salaire. Chaque croque-mort est censé recevoir 100 dollars par semaine pour enterrer jusqu'à 35 corps par jour. Les grévistes exigent également une prime des risques que les autorités leur ont refusée jusqu'à à présent. Pourtant, les dépouilles restent contagieuses après les décès des patients. Fin complète de cette session d'information sur New TFM. Madame, Monsieur, qui a retenu à la une la présence d'Uhuru Kenyatta à la haie. Les présidents kenyans ont comparu le mercredi pour tenter avec ses avocats de défier la Cour pénale internationale qui lui reproche les crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2007. Et à Kolwezi, précisément au quartier Kasulo, se poursuit en toute inquiétude l'exploitation artisanale des minerais. Cette pratique, plusieurs fois prohibée, expose les habitants de cette partie de la commune des Dilala aux éboulements et à l'effondrement des maisons. Merci à vous de nous avoir suivis. Prince Amonga nous a réalisé. Madame, Monsieur, je vous retrouve à 8h pour le tout premier bulletin d'information de ce matin.
www.nyota.net, le Katanga vers le monde.
Nyota.net, une autre face d'information.
Nyota.net, une autre source d'information à vous.